Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Ne te baisse pas surtout, ne tombe pas, monte encore plus haut, encore plus haut.
Ça, c'était l'immobilier avant la crise. Depuis de nombreux mois, ça baisse, ça ne monte plus. Une chance pour les acheteurs potentiels, moins pour les vendeurs et surtout pour les professionnels de l'immobilier qui souffrent. Mais comment enrayer la baisse des prix ?
Qu'est-ce qui vous a pris ? Qu'est-ce que c'est que cette folie collective ?
C'est vrai ça ?
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming, et tous les soirs à partir de 17h sur leséchos.fr.
Bonne nouvelle, la baisse des prix se confirme dans l'immobilier. Que disent les chiffres ?
Alors là, deux sources aujourd'hui. Meilleur agent Les Échos qui sortent le traditionnel baromètre mensuel dans les villes. Là, la baisse qui était engagée dans pas mal de villes, la plupart des villes françaises, ça se confirme.
Bonne nouvelle, entend-on sur BFM Business. Enfin, pas forcément pour tout le monde. La baisse des prix de l'immobilier s'est confirmée en 2023 selon meilleurs agents, mais aussi selon les notaires. Il faut dire que les prix avaient flambé ces dernières années dans les grandes villes, mais aussi sur des marchés traditionnellement moins recherchés. La pandémie de Covid avait précipité pas mal d'urbains vers la campagne. Sauf que l'environnement a changé. Entre le réveil de l'inflation et la hausse du coût du crédit, le pouvoir d'achat immobilier a chuté, et avec lui les volumes de transactions. Car s'il y avait moins de vendeurs, les acheteurs se sont aussi fait plus rares. Comment, dans ces conditions, enrayer la baisse des prix et comment redynamiser ce marché ? C'est la question que s'est posée Anne-Sophie Vion du service patrimoine des Échos. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Pierrick.
Alors avant de parler des solutions, on va faire un petit état des lieux. Comment se porte le marché de l'immobilier ?
Alors, ce que l'on peut dire à date, c'est que ce marché immobilier, il est un peu étrange, en fait. Il est un peu dans l'entre-deux. On n'est ni vraiment à l'arrêt figé, mais on n'est pas vraiment dans un marché très dynamique. Pour rappel, l'année 2023, elle s'est terminée avec un record historique de baisse des ventes sur un an, de près de 22% à 865 000 transactions, et une évolution des prix France entière pour la première fois en baisse annuelle à moins 1,8%. Alors, en ce début d'année, côté activité, les professionnels, ils évoquent une légère reprise avec le retour des acheteurs. On a aussi un léger frémissement, ça c'est les courtiers qui le disent, côté financement. Et concernant les prix, ce que l'on voit, c'est aussi une certaine stabilité. Une stabilité, en janvier, on avait vu les prix étaient quasiment atones. Et en février, ça, on vient d'avoir les indices meilleurs agents, les échos, les prix ne reculent que de 0,1%. C'est vraiment minime. Donc, en aucun cas, on est sur une accélération de cette tendance baissière. En revanche, à Paris, le marché clé, la correction, elle se poursuit avec une baisse de 0,7% en février, ce qui porte quand même le recul annuel à moins 6,6%. Et on a un prix maintenant moyen au mètre carré de la pierre parisienne à 9 403 euros. Qu'en France entière, il s'établit à 3 101 euros, le prix moyen au mètre carré.
On a bien dépassé depuis quelque temps cette barre des 10 000 euros qui avait marqué les esprits il y a quelques années. Avec 875 000 transactions pour la France entière, des chiffres de l'AFNAIM, une baisse qui est la plus forte chute en volume observée depuis 50 ans. C'est pour l'ancien, pour l'immobilier neuf, la crise est encore plus sévère.
Oui, le logement neuf, on peut dire, il s'enfonce vraiment dans la crise. Le secteur, il est malmené à la fois par cette forte baisse du pouvoir d'achat immobilier des ménages. Ils sont toujours touchés quand même par des conditions de crédit difficiles, par un prix aussi qui est toujours élevé dans l'immobilier neuf et par l'inflation qui persiste et qui grignote leur pouvoir d'achat. Alors, on a des professionnels du secteur qui doivent faire face, eux, au renchérissement des coûts de construction et du foncier. Ça dégrade la rentabilité des opérations qui se commercialisent avec plus de difficultés. D'ailleurs, on a eu les chiffres là de la Fédération des promoteurs immobiliers mi-février. Ces derniers chiffres, ils confirment que le secteur est en plein marasme. Les professionnels tentent d'écouler les stocks qu'ils ont sur les bras avant de s'engager dans les nouveaux programmes. Conséquence, on a un nombre de logements commercialisés en 2023 qui a chuté d'un tiers par rapport à 2022 et même de plus de moitié au dernier trimestre. Il y a aussi ce contexte de la fin des aides publiques au secteur du neuf, avec la disparition de la carotte fiscale du Pinel, ça va être l'an prochain. Mais dès cette année, on a un recalibrage du prêt à taux zéro. Et ça, c'est autant de facteurs qui pèsent sur le marché, en particulier sur le segment de la maison individuelle. D'ailleurs, on a des ventes des maisons individuelles neuves qui ont plongé de 39,1% en 2023, selon des données qui viennent de communiquer la Fédération française du bâtiment. Et l'activité dans ce segment a touché son plus bas niveau depuis 17 ans.
Toujours ton mauvais esprit. Faut être optimiste dans la vie. L'optimiste, c'est celui qui pense au dimanche toute la semaine.
Pour l'immobilier, on a quand même l'impression d'être lundi matin après un week-end bien arrosé. Anne-Sophie, les Échos ont travaillé en exclusivité avec Opinionway, le conservateur, pour sonder l'état d'esprit des propriétaires en France, notamment sur la question des prix. Sont-ils optimistes ?
Oui, ils sont toujours optimistes. Et ça, c'est vraiment un sujet d'étonnement parce que on a une conjoncture qui leur est de moins en moins favorable par rapport à la décennie passée. Mais les ménages, ils conservent un appétit intact pour l'immobilier. Alors qu'on voit qu'on a une petite tendance baissière des prix là en début d'année, eh bien, les propriétaires, ils sont plutôt confiants sur l'évolution des prix. Dans ce sondage, ils sont plus d'un tiers d'entre eux à penser que les prix vont encore rebondir cette année. Ce sont surtout les plus jeunes qui sont plus nombreux à tabler sur une progression. À l'inverse, on a les 65 ans et plus qui considèrent que la correction va se poursuivre. Ils sont peut-être échaudés par leur expérience passée de les crises de l'immobilier résidentiel. Et dans ce climat, on voit qu'on a de l'investissement, des envies d'investissement qui se tiennent toujours. On a 2 propriétaires sur 10 qui songent à investir à nouveau dans l'immobilier en 2024. Ils ciblent en priorité la résidence principale devant l'investissement locatif et l'achat d'une résidence secondaire. Et c'est dans la catégorie des moins de 35 ans, des CSP+, des propriétaires qui ont une épargne mensuelle importante ou un patrimoine financier conséquent, qu'on a le plus grand nombre qui souhaitent acheter.
Anne-Sophie, le marché de l'immobilier s'est grippé. On a parlé dans les médias de crise du logement et même de bombe sociale. Vous avez diagnostiqué 3 facteurs qui pourraient enrayer la baisse des prix. On va les détailler ensemble. Il y a d'abord la question du crédit immobilier essentiel pour qui s'endette pour se loger ?
Oui, ce crédit immobilier, c'est vraiment le carburant dont le marché a besoin pour fonctionner. Ce sont plus de 80% des achats des ménages qui sont financés par le recours à l'emprunt. Le prêt le plus utilisé en France est ce prêt dit amortissable à taux d'intérêt fixe sur 20 ans et plus. Donc, quand ce crédit va mal, le marché cale. On l'a vu avec la remontée violente et rapide des taux l'an dernier, la cherté du crédit, les difficultés d'y accéder, bien ça explique en grande partie le grippage du marché. Mais dans ce sombre paysage du financement, on voit une légère embellie en ce moment. On a d'ailleurs les chiffres de l'Observatoire Crédit Logement CSA qui reflètent le gros du marché. Et bien selon eux, le taux moyen des crédits immobiliers, il a baissé en ce début d'année. Il est passé de 4,24% en décembre à 4,15% en janvier. Ces données, elles rejoignent celles de plusieurs courtiers en crédit qui observent des baisses de taux qui s'accentuent sur les premiers mois de 2024. On a par exemple la directrice des études d'Empruntis, Cécile Rochlor. Elle nous dit qu'en janvier, elle avait la moitié des barèmes des taux sur 20 ans qui étaient baissiers. Or, en ce début février, ce sont les 2/3 des barèmes qui sont en recul, en moyenne de 20 points de base. Donc tout ceci, cette tendance baissière sur les taux, elle témoigne de la volonté des banques de faire revenir les emprunteurs.
Alors justement, cette baisse des taux sera-t-elle suffisante pour redonner du pouvoir d'achat aux acheteurs ?
En fait, la baisse des taux seule, elle n'est pas suffisante pour relancer vraiment la machine. Elle permet, oui, de resolvabiliser certains acheteurs, d'autant qu'en parallèle, on l'a vu, on a un début de baisse des prix immobiliers. En fait, l'autre facteur positif pour les emprunteurs, c'est le fait que petit à petit, les banques, elles desserrent ce robinet du crédit. On a vu de grands réseaux nationaux qui étaient absents depuis des mois, ils sont revenus dans la course. On a aussi des banques, ça c'est les courtiers qui le disent, elles sont plus réactives, elles prennent davantage de temps pour étudier les dossiers, même ceux qui sont un peu hors normes, et elles accordent des décotes importantes pour certains clients. On a aussi un autre signe de détente sur le front du crédit, c'est le retour des prêts à 110%, c'est ces prêts immobiliers sans apport. On a aussi des prêts sur 30 ans, on voit dans quelques établissements comme des caisses d'épargne. Et quant au taux, l'évolution des taux, selon les prévisions des courtiers, et si on est toujours dans un contexte où l'inflation reflue et on aura une probable baisse des taux de la BCE en avril, eh bien ces taux, ils devraient continuer de baisser graduellement. Fin 2024, les prévisions, c'est que les prêts sur 20 ans, ils atteindraient en moyenne autour de 3,5, voire 3% pour les plus optimistes. Et je rappelle qu'aujourd'hui, on est autour de 4%.
À la fin de l'été, les transactions immobilières ne dépassaient pas la barre symbolique du million sur un an, en baisse de 16,6% par rapport à la fin de l'été de l'année passée, du jamais vu sur ces 10 dernières années.
Deuxième facteur, on a parlé tout à l'heure de la faiblesse du nombre de transactions l'an dernier. Comment faire remonter la demande de logement ?
Alors, il faut déjà voir que cette forte chute de l'activité l'an passé, on doit la relativiser car en fait elle succède à 3 années records et en fait à 875 000 transactions pour 2023, le marché reste en réalité dynamique. Le choc de la hausse des taux a été contré par une augmentation de l'apport personnel, soit directement, soit par solidarité familiale. On a eu aussi un allongement de la durée des emprunts et davantage d'acquisitions, notamment par des opérations d'achat-revente qui ont été effectuées sans recours à l'emprunt. On a eu beaucoup d'achats en cash et ces achats par cash uniquement ont été doublés. Donc, cette résilience relative de l'immobilier, elle devrait continuer. D'autant, comme on l'a vu, on a des envies d'achat des logements des Français qui ne faiblissent pas. Alors, certes, on a une demande qui est un peu poussive en dépit d'un frémissement récent. On a des ménages qui sont attentistes, qui s'autocensurent car ils pensent qu'ils ne parviendront pas à emprunter comme ils le souhaitent. Ils attendent que les taux et que les prix baissent davantage. Alors, pour que cette demande reparte vraiment, il faudrait soit que les taux baissent plus ou que les prix baissent plus. Mais concernant les taux, on l'a vu, les spécialistes pensent qu'on aura une baisse, mais contenue tout au long de l'année. De même pour les prix. D'ailleurs, sur les prix, ce qu'on voit dans les dernières enquêtes dont on a eu connaissance, eh bien, on voit que certaines évolutions sont plutôt repartent à la hausse. C'est le cas de Lyon, Nantes, Nice, Grenoble, Lille. Elles sont de nouveau en hausse au mois de février. Parce que ce recul des prix se réduit un peu dans des territoires tendus où l'offre et la demande restent fortement déséquilibrées. Et la baisse des taux redonne un peu de pouvoir d'achat immobilier à ces ménages. Donc, sauf mesure choc du gouvernement, finalement, sur le logement, qui pourrait vraiment encore plus stimuler la demande, eh bien, on risque d'être dans un marché toujours un peu atone et attentiste tout au long de 2024.
Enfin, dernier facteur, Anne-Sophie, c'est la question de la rénovation énergétique. On avait parlé dans la story du marché de la location déprimé par l'interdiction prochaine de vendre les biens trop énergivores. Ça a accentué encore la crise du logement, notamment pour les étudiants. Que va faire et que peut faire le gouvernement pour renverser la vapeur ?
Alors oui, c'est vrai, vous l'avez souligné, l'importance de cette notation énergétique d'un bien. Alors c'est dans le diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE. Ça influence de plus en plus les projets immobiliers des ménages. Toutes les enquêtes le mettent en lumière et le phénomène ne fait que commencer. Les acheteurs, ils sont très sensibles à la question. Les vendeurs des biens mal notés F et G, les fameuses passoires thermiques dans le DPE, ils n'ont pas le sentiment que s'ils attendent, leur situation va s'arranger, comme c'est le cas pour des biens plus vertueux. Donc, ils acceptent des baisses de prix sans trop discuter. Or, cette pression baissière, elle pourrait toutefois être atténuée parce qu'on a un début d'assouplissement des contraintes de rénovation énergétique qui s'imposent aux propriétaires bailleurs sous peine de ne plus pouvoir louer leurs biens. Le gouvernement avait jusque-là écarté la révision du calendrier 2025-2034 de ses obligations, mais il a quand même fait un premier pas en faveur des petits logements qui sont pénalisés par le mode de calcul du DPE. Ça concerne les logements de moins de 40 mètres carrés actuellement notés F ou G. La correction, elle permettrait d'améliorer la note, ça c'est le ministère qui l'a évalué, de 140 000 logements, donc ce n'est pas rien, en les sortant de la catégorie des passoires énergétiques F ou G. En pratique, on a un simulateur qui est ouvert depuis le 13 février sur le site de l'Observatoire des PE Audit de l'Agence de la Transition écologique, l'ADEME. Et cette attestation d'une nouvelle étiquette, elle sera en réalité valable qu'à partir du 1er juillet, de façon légale. Donc l'aménagement de ce DPE pour les petites surfaces, ça a été globalement salué par les professionnels, mais certains disent que ça ne va pas assez loin. On a la Fédération nationale de l'immobilier qui demande par exemple un rééquilibrage aussi en faveur des logements chauffés à l'électricité qui sont pénalisés par rapport au gaz. On a aussi des demandes qui portent sur le bâti qui date d'avant 1948. On a aussi des aménagements qui sont en train de se dessiner pour les logements en copropriété. Eh bien, tout ceci va contribuer à desserrer un peu ces obligations de rénovation. Ça pourrait redonner de la confiance à leurs propriétaires, logements concernés, qui seraient peut-être moins tentés de vendre aujourd'hui avec des décotes importantes et de prendre peut-être le temps de faire les travaux. Tout ceci va jouer aussi sur le marché.
Ah, oh, cet endroit est gigantesque.
Oui, c'est un gigantesque taudis. C'est vrai. Mais un jour je l'achèterai et je le remettrai en état. Ce qu'il faut surtout, c'est un nouveau plancher, de nouveaux murs et un nouveau toit.
C'est tout ?
Refaire la plomberie et l'électricité.
Et changer les meubles.
Oui, de nouveaux meubles.
L'immobilier en France, c'est un peu les grands travaux permanents. On n'a pas fini de bouger les meubles. Mais les dernières annonces du gouvernement et la baisse des taux enclenchés sur les marchés suffiront-elles à réveiller l'immobilier ? Pour y répondre, j'ai appelé Olivier Descamps. Il est responsable d'IAD France, un réseau d'agences immobilières. Bonjour Olivier Descamps.
Bonjour.
D'abord, partagez-vous ce constat qu'il y a une crise du logement en France ?
Mais d'abord une crise immobilière qui s'est très vite transformée en crise du logement. Et il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est la difficulté des Français à pouvoir se loger, ceux qui veulent acquérir, donc la difficulté à pouvoir devenir notamment des primo-accédants. Et on pourrait dire que le deuxième effet de cette crise, c'est d'empêcher des locataires de libérer leur logement en tant que locataire, et donc d'avoir une deuxième crise autour de la location. C'est-à-dire que les primo-accédants n'arrivant pas à devenir propriétaires, ils restent donc locataires. Et il n'y a plus de biens en location.
Est-ce que vous sentez quand même que c'est un peu en train de bouger en ce début d'année ?
Je dirais que ça frémit, parce qu'on a, premier élément, les taux qui sont en train de baisser. Je pense que l'un de nos partenaires courtiers va annoncer des taux en deçà de 4% dans quelques jours sur 20 ans. Donc ça sera plutôt une bonne nouvelle. Deuxièmement, on a vu que le niveau d'apport demandé par les banques était en train de baisser parce que les banques reviennent, entre guillemets, un peu aux affaires. Et on pourrait dire qu'il y a un troisième élément qui peut être un élément positif. C'est les annonces, même si les décrets sont pas encore parus, de tous ceux qui étaient investisseurs sur les petites surfaces. On va dire qu'on va assouplir les notions autour du DPE sur les petites surfaces qui pourraient relancer certaines acquisitions pour des propriétaires bailleurs de demain.
L'année a été difficile aussi pour les agents immobiliers avec un nombre important de cessations d'activité. C'est ce qu'on peut voir, notamment dans les chiffres des défaillances d'entreprises. Comment est-ce que vous avez traversé cette crise ?
Bon, on n'a pas été épargnés, puisque nous, la taille du réseau a baissé de l'ordre de 5%. Mais en fait, moins par une accélération des départs et des arrêts, parce que à la différence d'une agence traditionnelle où on voyage plutôt léger, on n'a pas de frais fixes, nos agents n'ont pas de loyer à payer, n'ont pas tous les frais qu'on peut connaître dans une business unit, dans une agence immobilière classique. Par contre, on a eu moins de gens qui se sont reconvertis, puisque ce marché donnait un peu moins envie, même si c'est pas juste, mais en tout cas entre les articles de presse, les émissions de télé sur la crise du logement, sur les taux qui sont élevés, la difficulté à se loger, c'est un marché qui était moins appétant l'année dernière. Voilà.
Ça veut dire que quand on entend ces nouvelles, on se dit c'est vraiment pas là qu'il faut que j'aille travailler.
En tout cas, pas tout de suite. Et alors, ce qui est vrai pour ceux qui veulent se reconvertir, beaucoup moins vrai pour les pros, parce que les pros, malheureusement, je crois qu'il va y avoir de l'ordre de 1400, 1500 agences immobilières qui vont fermer à horizon fin juin. C'est ce qu'annonçait en tout cas l'AFTAIM dans les ordres de grandeur. On a, à l'inverse, beaucoup de professionnels qui nous ont rejoints en agence, qui eux sont pas inquiets parce que les crises immobilières, on en connaît, on a connu d'autres, et eux disent finalement, moi, je veux continuer d'exercer mon métier. Et donc, on a aujourd'hui dans les entrées chez nous, ceux qui viennent garnir les rangs des équipes IAD, plus de professionnels qui viennent d'agences parce qu'ils veulent continuer ce métier. Ils n'ont pas les craintes que peuvent avoir quelqu'un qui est en reconversion.
Il y a un chiffre qui a marqué quand même pour l'année 2023. C'est la chute du nombre de transactions, 875 000 l'an dernier. Alors on restait sur trois années fortes auparavant, ce qui permet peut-être un peu de minimiser ce chiffre. Le nombre de transactions a chuté faute d'acheteurs ou faute de vendeurs ?
Alors, Je dirais qu'il a chuté fortement et c'était brutal, hein, parce qu'on a connu des érosions, mais là c'était très brutal. Il a d'abord chuté, non pas par les vendeurs, puisque nous, si on prend l'exemple d'IAD, on a progressé au nombre de mandats. C'est-à-dire qu'on a plus de mandats signés que l'année dernière, 2023 a vu plus de mandats. Donc l'appétence à vendre son bien était là. Mais dans ce qui s'est passé sur le marché, comme les taux ont progressé, donc l'équation est assez simple, hein, c'est un prix de vente, un taux, une capacité à rembourser. Mais finalement, si l'acquéreur fait une offre en disant « je vais faire une offre », soit elle était refusée par le client, vendeur, en disant « mais moi, c'est trop bas ». Et comme je suis dans une transaction de confort, l'exemple que je veux dire par confort, c'est « je suis en train de vendre un studio pour acheter un peu plus grand en résidence secondaire », finalement, j'ai pas envie de brader ce bien-là. Et donc là, il y avait une sorte de statu quo qui s'est mis en place. Ensuite, on a eu malheureusement des acquéreurs qui faisaient une offre qui était acceptée par le vendeur, mais pas accepté par les banques. Et donc là, on a vu des dossiers qui traînaient. Et en fait, le marché est en train de décroître. Globalement, hein, quand on a fait 1 200 000 transactions il y a quelques années, dans ce 1 200 000, il y avait à peu près 400 000 transactions de confort et 800 et quelques mille transactions de nécessité. Et donc aujourd'hui, quand on parle de crise de logement, c'est qu'on arrive aujourd'hui avec des gens qui sont en train de divorcer ou divorcer, qui restent ensemble parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs biens, ou en tout cas pas à un prix correct, des étudiants qui n'arrivent pas à trouver de location, des gens qui sont mutés, qui refusent des mutations. Et donc, on a aujourd'hui, quand on vous parlait de l'introduction de crise du logement, on arrive à ça parce qu'aujourd'hui, au-delà de pas vendre mon bien de confort au prix auquel je le souhaitais, on a malheureusement des gens qui disent « je n'arrive pas à me loger ». Et donc, c'était plutôt une crise d'acquéreurs parfois trop gourmands en termes de baisse de prix, des vendeurs parfois trop gourmands en voulant pas mettre le prix au prix du marché, et au milieu des gens qui malheureusement s'étaient mis d'accord, vendeur-acquéreur, mais l'acquéreur n'était pas finançable.
Oui, ça c'est justement quelque chose que vous avez pu voir à travers votre baromètre hein, que vous réalisez régulièrement. Les marges de négociation ont augmenté?
Oui, alors les prix ont peu baissé, hein, de l'ordre d'1,5% en moyenne hein, en France, avec des disparités fortes selon les régions, évidemment. Hein. Les régions où les prix avaient fortement monté, comme vous l'avez dit, post-Covid, ces régions ont vu leurs prix baisser, naturellement, c'est une sorte de rééquilibrage. Et par contre, on a vu les marges de négociation qui étaient pendant assez longtemps autour de 3,5-4 s'accélérer depuis quelques mois pour arriver autour de 6, 7, voire 7,5% de marge de négociation. Parce que, comme on le disait précédemment, hein, quand un vendeur est un peu acculé hein, par une vente qui est nécessaire, il est obligé de baisser son prix.
La crise touche aussi les fabricants de maisons. Olivier Descamps, le pavillon individuel ne fait plus rêver ?
Il fait rêver les Français, il fait moins rêver les pouvoirs publics, hein, qui rêvaient d'un habitat vert et vertical, donc vert-vert. Hein. Mais aujourd'hui, les Français, hein, dans la dernière étude qu'on a pu faire, on a interrogé dans la dernière enquête qu'on a réalisée, évidemment que le pavillon fait rêver, la maison individuelle fait rêver, le bout de terrain dans lequel je peux jouer avec mes enfants, dans lequel mon animal domestique peut jouer, fait encore rêver. Ça, c'est très clair, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le pavillon, c'est la première demande des Français, on le voit dans toutes nos études.
Mais ça veut dire que c'est un rêve qui devient plus inaccessible aujourd'hui ?
Ça devient difficilement accessible parce que la construction notamment est bloquée. Hein. L'inflation a fait exploser les prix des matières premières et donc les prix de construction des maisons individuelles ont fortement explosé, hein, ça c'est assez clair. Et aujourd'hui, on a une réflexion sur également les pouvoirs publics au niveau des collectivités, sur la part des maisons à pouvoir être construites, les promoteurs, vous l'avez vu, hein, dans le neuf, c'est des régressions de 35-40% parfois. Et donc l'offre pour ce type de bien a fortement baissé puisque la construction neuve, c'est un moteur, hein, c'est un moteur important pour que les Français accèdent à ce pavillon, à cette maison individuelle, et aussi un moteur intéressant pour les primo-accédants.
Votre dernier baromètre indique justement que 83% des personnes interrogées souhaitent acheter une maison et signe encourageant pour votre profession. Plus de 8 Français sur 10 voient dans le fait de devenir propriétaire plus d'avantages que d'inconvénients. C'est ce que dit le baromètre de l'Habitat réalisé en octobre par Harris Interactive et Procivis. Depuis quelques mois, le marché se prête peu à ce rêve ou cette ambition. Comment voyez-vous évoluer le marché immobilier dans les prochains mois ?
Aujourd'hui, la clé, hein, on l'a vu, hein, c'est permettre aux primo-accédants de pouvoir devenir propriétaire et d'avoir des taux qui sont à la baisse. On a une perspective de voir des taux qui sont en train de baisser. Donc nous, on pense que le printemps verra un peu un redressement de la situation. Donc on pense qu'au printemps, ça pourrait commencer à s'améliorer, voir un peu plus vite si les taux baissaient plus rapidement. Et on pense plus raisonnablement que la fin d'année devrait être un peu plus forte en termes de rebond. Le rebond, on le voit plutôt pour la fin d'année.
Un dernier mot, le logement a enfin son ministre, ça a mis un peu de temps. Guillaume Kasbarian, député à l'origine d'une loi contre l'occupation illicite des logements, autrement dit le squat, qu'attendez-vous de lui ?
On attend d'abord qu'il nous écoute, ce qui a commencé à être fait, parce qu'on peut lui reconnaître que depuis les quelques semaines où il est présent, il a reçu beaucoup de monde, en termes de simplification, le DPE, Patrice Vergriete, qui était avant lui, avait initié des choses, donc on attend un... qui puisse faire pression sur son collègue de Bercy pour faire pression auprès des banques pour baisser les taux et pouvoir nous permettre à nos acquéreurs de pouvoir devenir propriétaires. La seconde, c'est d'être raisonnable sur la partie, on est tous volontaires sur la rénovation énergétique, mais aujourd'hui, entre le calendrier, entre les normes, donc ce choc de simplification, on souhaite qu'ils le mettent vraiment en place. Et ensuite, c'est qu'ils puissent également nous accompagner sur tous les projets autour de l'environnement, hein, puisque c'est un sujet majeur des Français, pour qu'on soit entre les collectivités, les pouvoirs publics, les décisions données aux maires, les décisions d'État, qu'ils soient à l'écoute de nos syndicats professionnels, que ce soit la FNAIM ou l'UNIS, pour qu'ils puissent être entendus et débloquer la situation qui est parfois trop complexe, ce fameux millefeuille dont on parle, qui rend parfois également des investisseurs, hein, on oublie souvent les investisseurs, ce qu'on appelle moi les propriétaires bailleurs, de permettre à des gens d'investir pour mettre des biens en location, de pouvoir leur simplifier la vie et d'avoir une visibilité sur ce que serait la fiscalité. Hein, quand je suis propriétaire et je veux investir, mettre en location, quelle sera ma fiscalité pour les 10-15 ans à venir? Là, on demande également une visibilité forte pour permettre à ces investisseurs de continuer à investir dans l'immobilier.
Merci Olivier Descamps, directeur général d'IAD France, et merci Anne-Sophie Vion, journaliste au service patrimoine des Échos. Le cahier patrimoine, c'est tous les vendredis dans le journal et sur leséchos.fr. Abonnez-vous pour rester informé sur les questions de fiscalité, d'immobilier, de retraite, d'assurance vie ou du marché de l'art. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.